Et bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cette quatrième pastille de Touchdown Actu. Aujourd'hui au programme, ce sont les Arizona Cardinals. Et comme toujours pour m'accompagner, Grégory Richard. Bonjour à toi, Grégory.
Bonjour à tous, salut Victor. Très heureux de parler de Jonathan Gannon à chaque fois en ta compagnie.
Eh, écoute, j'ai fait un semi mea culpa, en tout cas, et je trouve que Arizona a été particulièrement vaillant l'année dernière, alors que ce n'était pas forcément attendu. Et la bonne nouvelle pour cette équipe de Carolina, c'est qu'en plus d'être vaillant, alors eux, ils ont un réservoir de draft absolument monumental, ne serait-ce que les trois premiers tours. Il y a deux premiers tours, un deuxième tour et trois troisièmes tours. Donc, on est vraiment sur une équipe qui a tout ce qu'il faut pour se reconstruire. Et on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Sur les trois premières pastilles, ce sont trois quarterbacks qui ont été choisis. Mmh. Ici, le choix se porte sur un receveur. Ça ne surprendra pas grand monde, évidemment, on en a beaucoup parlé. Marvin Harrison Jr., peut-être le joueur le plus talentueux de cette draft qui débarque dans l'Arizona. Grégory, je sais que tu adores cette question, donc je vais te la poser comme ça.
Oui, oui.
Est-ce qu'on peut dire que Arizona ne peut pas laisser passer un joueur générationnel ?
Ah bah, je pense qu'on peut le dire quand même, ce serait dommage de laisser passer un talent de la trempe de Marvin Harrison Jr. Avec le quatrième choix, hein, surtout qu'on l'a dit, voilà, là, il y a des histoires où on dit bah, si les trois premiers quarterbacks partent, il y aura peut-être une histoire de trade down, hein, parce que voilà, on est là pour donner nos préférences un petit peu sur les choix, en tout cas les directions à privilégier, mais forcément les échanges sont pas forcément à négliger, et c'est sûr que c'est un scénario qui peut se présenter, en tout cas on peut proposer à Arizona de descendre. Je pense que là, honnêtement, si tu es dans cette situation-là, il faut y aller et prendre le meilleur joueur disponible sur une position à besoin, encore plus depuis l'échange justement de Rondale Moore qu'on a envoyé du côté d'Atlanta. Ça ne change pas énormément la donne parce qu'il y a beaucoup de problèmes de blessures malheureusement pour Moore ces derniers mois. Mais là, aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tes deux principaux receveurs sont Michael Wilson et Greg Dortch. Donc même si on est sur une position très très forte à la draft avec potentiellement des joueurs que tu peux récupérer dans les trois premiers tours avec les six picks que tu as mentionnés, je pense que voilà, il y a bien un moment où une équipe va se laisser séduire par Marvin Harrison Jr. qui représente potentiellement le receveur d'avenir. Ça tombe bien, en plus, je compare souvent dans son utilisation à Larry Fitzgerald. Donc le voir terminer à Arizona pour mettre en application toute sa qualité de tracé, sa rapidité, sa qualité tout simplement en un contre un, ça ne paraît pas forcément quelque chose de négligeable pour Arizona pour repartir sur des bonnes bases offensivement.
Oui, bah on arrive sur la première équipe qui n'a pas un besoin évident de quarterback. Je pense que les trois joueurs les plus talentueux de cette draft sont trois receveurs. Marvin Harrison, Mike Nabers et Romo Dunze, qui est un peu mon Larry Fitzgerald à moi, tu vois. Moi, ce serait plus Romo Dunze. Mais pour le coup, je vois passer des rumeurs ces derniers jours. Alors, c'est Daniel Jeremiah qui l'a lancé, donc forcément, ça tourne. Sur Malik Nabers pourrait être receveur numéro un pour certaines franchises. C'est tout à fait possible. Honnêtement, je suis pas choqué par ça. Je reste quand même persuadé qu'il est hautement probable que Marvin Harrison soit le premier receveur pris dans cette draft. Il a tout, globalement. Il est absolument complet de A à Z. Il a très peu de défauts. Il a l'arbre complet, il a les mains, il a la vitesse, il a l'instinct, il a le QI football. Bon, bah, peut-être que, comment dirais-je, il fera un four comme certains grands receveurs choisis dans le top 5. Hein. On se souvient, par exemple, de la hype Watkins ou autre. Mais là, globalement, je vois quand même un joueur qui me rassure à tous les niveaux. Donc, je ne vois pas vraiment comment tu peux passer à côté de ça. Et je vois beaucoup de gens dire trade down, etc. Ce que par exemple, on avait fait dans la dernière mock en live, où j'avais fait le choix, mais je n'avais pas pu le défendre, je n'avais pas pu être là. Mais globalement, plus j'y pense, et plus je me dis, t'as tellement de picks qu'à un moment, ça sert à rien de trade down pour trade down. prends juste le talent et puis ça ira très bien, notamment en plus que le trade-down pour moi qui était évident, c'était en 8 avec Atlanta. Maintenant, il paraît clair que Atlanta n'ira pas en 8 vu le recrutement de Kirk Cousins. Marvin Harrison, c'était presque une évidence. Là, on va peut-être surprendre quelques personnes avec le deuxième choix, donc en fin de premier tour, puisque. Alors, deux choses. Puisque, un, tu penses que, je ne trahirai rien, hein, les Cardinals pourraient ne pas sélectionner à ce niveau-là du premier tour, tu vas nous en parler. Et en deux, si jamais ils ne trouvent pas de partenaire et sont toujours à cette position, tu les vois aller vers Chris Braswell, le edge de Alabama.
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs points en effet à éclaircir. C'est-à-dire que moi, mon plan A, entre guillemets, ma logique dans ce cas de figure-là, et tu l'as exposé en introduction avec le nombre de picks qu'a Arizona à disposition dans les trois premiers tours, c'est forcément un trade-up. Un petit peu dans la logique de ce qu'avait fait Houston l'année dernière, hein, en allant chercher CJ Stroud puis Will Anderson dans la foulée. Là, l'idée, c'est d'aller chercher le meilleur joueur offensif, puisque à mes yeux, en tout cas, Marvin Harrison Jr. l'est, et un des tout meilleurs joueurs défensifs, ou en tout cas, un des meilleurs joueurs défensifs que tu peux aller chercher sur une position qui t'intéresse. Et malheureusement pour Arizona, la position de edge rusher, elle reste, au sortir de ses premiers jours, notamment de free agency, un besoin encore crucial. Dennis Gardet, qui a été meilleur sackeur l'année dernière, mais c'est principalement un joueur de rotation. Biggio Ejulari a démontré qu'il avait besoin d'un petit peu de temps, et on ne sait pas si c'est forcément le pass rusher d'avenir que peut avoir Arizona à sa disposition. Zeven Collins, on connaît son profil assez complet, mais on sait aussi que ce n'est pas un joueur choisi par le nouveau régime en place et que bah, Monty Ossenford va peut-être s'en débarrasser à un moment donné. Donc, ça me paraît évident que la position de Edge est nécessaire. Et en regardant un petit peu les différents picks, les différentes sélections à disposition d'Arizona, on s'aperçoit que bah, s'ils trade leur 27e choix du premier tour, plus potentiellement ou le début du deuxième ou le début du troisième, par exemple, un de leurs choix du troisième tour, et bah, ils peuvent monter dans les spots entre 12 et 18 au premier tour, ce qui n'est pas négligeable. Et ce qui peut, par exemple, leur permettre de récupérer un joueur comme l'Ayatou Latou, qui apporterait justement ce profil un peu plus pass rusher que ne sera peut-être pas Biggio Ejulari. Ça, c'est dans le scénario, on va dire, un peu plus fantaisiste, puisque là, encore une fois, on n'y est pas, et on analyse, le 27e choix brut. Sur Chris Braswell, je sais que ça divise pas mal, on en parlait en off avant l'enregistrement de cette émission. Moi, je pense qu'il aura une cote plus importante que celle qu'on veut lui accorder, notamment parce que sorti des quatre premiers choix, à savoir Verse, Latou, Turner et possiblement Chop Robinson, qui forcément a pris une grosse cote depuis le combine, si on cherche vraiment des joueurs presque avec un profil d'outside linebacker, dans lequel je ne mets pas Darius Robinson, derrière, ça ne se bouscule pas au portillon pour être aux alentours de la fin premier, début deuxième tour. Et c'est pour ça que Chris Braswell, en effet, il y a un échantillon qui est relativement faible, mais ça reste un échantillon du côté d'Alabama. Ça reste un joueur qui a démontré une énorme activité, qui a un potentiel non négligeable et qui, je pense, dans cette équipe d'Arizona, peut se faire sa place très rapidement pour devenir un edge rusher titulaire. Donc voilà. Beaucoup le voient plus au deuxième tour. Je pense qu'il y aura forcément une équipe qui va vouloir griller la politesse à d'autres et aller le chercher au premier tour. Et si Arizona ne monte pas dans la draft par rapport au scénario que j'évoquais tout à l'heure, je pense que Chris Braswell sera un plan B plus qu'honorable pour eux pour améliorer cette position à besoin.
On voit souvent d'ailleurs historiquement en fin de premier tour un petit rush au niveau des pass rushers. Hein. On se souvient de comment il s'appelle celui des Saints, Peyton Turner.
Oui.
On se souvient de Joe Tryon aussi qui était plutôt attendu au milieu du second tour
Tout
et
à
qui
fait.
doit finir. Je crois qu'il finit dernier choix du premier tour ou quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est quand même, malgré tout, on a beau dire la position cornerback évolue, ce qui est vrai et tout, ça reste la position premium par excellence, quoi. Dans une défense, quel que soit le système. Et du coup, il faut jamais sous-estimer, en effet, l'importance qu'une franchise va donner à des pass rushers. En effet, je veux dire, Braswell, il a beaucoup de choses pour convaincre. Il est explosif, il est puissant. Il sera effectivement pas bon dans tous les systèmes, mais dans un système Gannon, par exemple, en effet, je le vois très bien performer. avec ce côté un petit peu imprévisible, un petit peu utilisé des différents côtés ou sur des schémas d'attaque intérieure parfois ou autre. Enfin, il a cette polyvalence que Gannon va pouvoir utiliser. Et je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que si tu me dis quelle est la valeur brute du joueur, si je fais un top 50 demain, il sera peut-être 40, 45. Mais si tu me dis il a été sélectionné en 32, je ne tombe pas du tout de ma chaise, quoi. Ça peut faire sens. Enfin, en 32 ou en 27, dans la logique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est intéressant. Après, je suis comme toi, je pense qu'ils ont tellement de ressources que s'ils sont amoureux, ils pourront se permettre de monter pour l'atout ou... Alors, si c'est pass rusher, c'était sûrement pour l'atout. Si c'est, je ne sais pas, pour un cornerback ou autre, ça peut être aussi une possibilité. Mmh.
Juste pour reprendre ta comparaison par rapport à Gannon, je trouve que Creed Braswell, il y a des similitudes avec... pour moi, ça peut être un plus petit Josh Sweat, par exemple, qui avait
Exactement.
Rich Gannon à Philadelphie.
Exactement. Je suis d'accord avec ça. Donc ça, c'était nos deux premiers choix. Et notre troisième choix, on n'a donc pas à aller trop loin, hein, évidemment, puisqu'on est toujours on est au début du second tour, en choix 35. Là encore, un joueur dont on parle peut-être pas assez, un joueur qui parfois divise, mais un joueur qui coche les cases physiques, qui est un excellent plaqueur, qui a des instincts, enfin bref, je l'aime beaucoup, surtout dans un schéma de zone. C'est TJ Tampa, le cornerback de Iowa State. Alors, parle-nous de Tampa qui est né à Tampa, mais qui là se retrouve dans l'Arizona.
Oui, bah, tu le disais, moi, c'est un peu comme Braswell. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre, on va dire, techniquement, ce qu'on peut être amené à lui reprocher. Alors, tout n'est pas parfait dans son jeu. C'est sûr que dans la NFL moderne, ce n'est pas le cornerback sur le jeu au sol, notamment, qui va être le plus efficace. Donc, c'est sûr, par exemple, sur des yards après réception, pour se débarrasser des blocs, paradoxalement, pour un joueur aussi physique que lui, ça peut être un petit peu problématique. Enfin, il y a peut-être une technique de plaquage tout simplement à perfectionner aussi de son côté. Voilà, il ne faut pas se laisser un petit peu emporter par ses instincts. Mais je trouve qu'il y a un profil extrêmement intéressant. C'est un joueur qui est modelé d'un point de vue gabarit, vitesse, tout ce qu'on veut pour la NFL. C'est un joueur qui a un flair pour le ballon et qui est capable de provoquer des pertes de balles. Et moi, c'est surtout ça qui m'intéresse dans cette vision-là, c'est d'être capable d'apporter cette agressivité, mais aussi cette aptitude au turnover que n'ont peut-être pas suffisamment les cornerbacks aujourd'hui du côté d'Arizona. On sait que c'est un groupe très très jeune. Ils ont recruté notamment Sean Murphy Bunting, qui a montré une vraie progression ces dernières années, d'abord du côté de Tampa Bay, puis du côté de Tennessee. Donc, en soi, ça ne me paraît pas déconnant. Et sur le papier, il apparaît comme le corner numéro un avec le plus d'expérience. Mais je pense qu'à ses côtés, des Kaitrell Clark ou Starling Thomas the Fifth, ça fait un petit peu léger et qu'il faut peut-être apporter un petit peu plus d'envergure à ce poste de cornerback et notamment, encore une fois, un joueur capable de provoquer des pertes de ballon, ce que n'ont pas été suffisamment capables de faire les defensive backs d'Arizona la saison passée. Donc c'est pour ça que je vais vers TJ Tampa qui, voilà, d'un point de vue profil et encore une fois, d'un point de vue... agressivité, mentalité, tout simplement, va permettre à cette équipe d'Arizona de continuer d'aller dans le bon sens.
Je suis d'accord. Moi, je trouve que ça fait partie des joueurs. Ça surprendra peut-être certains suiveurs des équipes, mais c'est des joueurs qui font sens en termes de développement, en termes de schéma tactique, en termes de dimension physique par rapport à ce qui va être attendu. Donc, globalement, moi, j'aime beaucoup le choix de Tampa. Évidemment, comme je disais, moi, j'en rigole, mais TJ Tampa, qui est né à Tampa, j'ai toujours espoir qu'il soit sélectionné par les Buccaneers.
Surtout que Tampa a des besoins, hein, mais bon, ça, on aura le temps d'en reparler dans une autre pastille. Hein.
On aura le temps d'en parler dans une autre pastille. Mais c'est vrai qu'il y a un QI football qui est clair chez lui. Je sais que certains... mettent en cause notamment son explosivité, sa capacité à changer de direction. Moi, ça m'a pas non plus choqué, mais c'est vrai que il est peut-être pas aussi soudain que peuvent l'être d'autres cornerbacks, mais c'est aussi pour ça qu'il n'est pas au premier tour. C'est logique dans ce sens-là. C'est donc la fin de notre quatrième pastille. Merci Grégory.
Merci à toi.
Et alors, j'allais dire, on se retrouve, mais ça ne sera pas nous. Je ne dis pas qui c'est. Je préfère laisser une sorte de suspense, puisque vous aurez deux nouveaux intervenants qui vous parleront demain des Los Angeles Chargers, et le cinquième choix n'est pas forcément celui que vous attendez. Tadam, petit suspense. Voilà comment on vend une pastille. Merci Grégory, merci à tous. Et passez une très bonne journée. Salut, salut.